XXe siècle, qui ont abouti à un scénario, cette fois-ci qui se veut scientifique, de l'origine, mais surtout de l'évolution de l'univers, qu'on appelle le modèle de Big Bang. Et vous verrez qu'avec ce modèle de Big Bang, les scientifiques aujourd'hui prétendent reconstituer l'histoire de l'univers depuis une époque assez reculée, bien que le temps ne soit pas le bon paramètre pour parler de ces époques reculées, il faudrait davantage parler d'énergie ou de température. En tout cas, une époque où l'univers était certainement extrêmement différent de ce qu'il est aujourd'hui, en particulier très chaud et très très dense, jusqu'à l'époque présente, en scandant pas à pas ce récit de l'évolution cosmique par la fabrication effectivement de structures astronomiques de plus en plus élaborées. Si bien qu'aujourd'hui, le télescope le plus perfectionné et d'autres moyens d'investigation permettent notamment d'assister à ce qu'on pourrait appeler une genèse qui est toujours en cours, puisque on peut voir au télescope des géants de première galaxie, on peut voir au télescope certaines longueurs d'onde des étoiles en formation, des systèmes solaires en formation. Alors c'est cette longue histoire que je vais essayer de vous raconter, qui a encore un double aspect, un aspect historique et un aspect contemporain. Alors je disais que tous les peuples ont développé des récits cosmogoniques, on pourrait passer des heures dessus, faire une conférence entièrement sur ce sujet-là. Je n'en lirai qu'un, très bref, que j'aime particulièrement, qui est un poème indien. Et avant de vous lire ce poème indien, je vais vous montrer une illustration qui apparemment ne fait pas de mine. C'est un document absolument exceptionnel qui vient de du département des manuscrits orientaux de la Bibliothèque nationale de France, c'était un recueil d'hymnes du Rig Veda. Vous savez, le Rig Veda, c'est un recueil d'hymnes aux divinités, dans le patent transmis de façon orale pendant des millénaires, puisqu'on pense que la rédaction de ce premier texte, qui n'est pas été rédigé, l'élaboration de ce premier récit remonte à environ 2500 ans avant Jésus-Christ, donc parmi les plus anciens récits de l'humanité, ces hymnes aux divinités qu'on porte de nombreux hymnes à la création de l'univers, où l'on trouve déjà de très nombreux archétypes de la création que l'on va retrouver dans différentes cultures. L'archétype de l'œuf primordial, l'archétype du vide, l'archétype de l'eau, l'archétype du dieu créateur, et ainsi de suite. Donc c'est une œuvre remarquablement intéressante pour étudier le fonctionnement de l'imaginaire humain dès lors qu'il s'interroge sur les origines de toutes choses. Et donc ce manuscrit se présente sous forme d'une succession de feuilles de palmiers, donc reliées entre elles, en fait on voulait étudier un peu la déplier, façon un petit peu d'un éventail, et donc cette feuille de palmier est gravée en creux, ici, et le texte en sanskrit, raconte donc des hymnes à la création. Ce qui rend notamment ce manuscrit émouvant, c'est qu'il faut savoir que à cette époque, ces récits de la création, ces hymnes sacrés, étaient gravés en creux par des brahmanes aveugles, qui ne devaient pas voir le récit de la création. Ils inscrivaient, car c'était un récit hautement sacré. Donc, il y avait une fine aiguille, qu'elle traçait donc, en creux, un peu comme sur le braille, les récits de la création sur ces feuilles de palmier. Et après, ce n'est qu'au cours d'une cérémonie religieuse que un prêtre, voyant en lui, dévoilait le récit de la création en ancrant le manuscrit à mesure qu'il le lisait, un petit peu pour signifier que si l'origine du monde était d'origine divine, ce n'était que la parole de l'intercesseur entre les dieux et l'homme qui actualisait le récit de la création du monde. Et voici donc l'un des nombreux hymnes à la création que l'on trouve dans ces Rig Veda. Au commencement, cela a été non existant. Cela devint existant, grandit. Cela devint un œuf. L'œuf demeura ainsi le temps d'une année. L'œuf s'ouvrit. Des deux moitiés, l'une était d'argent, l'autre d'or. Celle en argent devint cette terre, celle en or devint le ciel. L'épaisse membrane du blanc, les montagnes, la fine membrane du jaune, la brume et les nuages. Les petites veines, les rivières, et le liquide de la mer, et le soleil naquit. Alors certes, récit mythique, mais qui tente lui aussi d'organiser la création d'une certaine façon. Alors je me disais que ces idées se retrouvaient dans de nombreuses cultures, des archétypes de la création, cette idée de l'œuf se retrouve par exemple dans une cosmogonie du XIIe siècle qui est due à une mystique qui s'appelait Hildegard de Bingen, également connue comme Lucienne, que la représente dans un tableau de la création avec cette idée d'un gigantesque œuf cosmique dont va naître toute la diversité. Alors, comme je vous le disais dans l'introduction, tout le monde sait que ce récit en fait, des origines a été dominé dans notre culture occidentale par les premiers versets de la Genèse, qui sont donc une tentative d'organisation de la création à partir d'un principe créateur qui est Dieu, bien entendu, mais qui va organiser la matière à partir du chaos. Cela va se faire en 7 journées, plus exactement en 6 journées actives et une journée de repos. Alors, ça, simplement, je vous rappelle. Cela, c'est aussi pour le plaisir de vous montrer quelques beaux manuscrits sortis de la Bibliothèque nationale. Il s'agit là d'un incunable, c'est-à-dire un livre datant des premières époques de l'imprimerie, qui s'appelle La Chronique de Nuremberg et qui tente de raconter l'histoire du monde depuis sa création supposée en 4004 avant Jésus-Christ, qui était la date imaginée à l'époque pour la création du monde, jusqu'à l'époque contemporaine de cet auteur, qui était 1493. Et les 7 premières pages du livre comportent les 7 vignettes, 7 gravures. Essayant de vous montrer les étapes de la création. Donc, ici, c'est évidemment le plus initial, et puis on trouve ensuite donc, la structuration progressive, la séparation du ciel et de la terre, la séparation des eaux en haut et des eaux en bas, et la création des astres, des luminaires. Les luminaires, c'est le soleil, la lune, et puis les étoiles. Et ça, c'est une étape très importante, parce qu'on voit, on commence à avoir un système du monde réellement structuré géométriquement. On trouve évidemment le système antique de Ptolémée centré sur la Terre, mais au moins déjà une description géométrique du monde. Et puis à partir du moment où les astres commencent à apparaître, c'est un petit peu comme si le temps commençait à marcher. Parce que finalement, vous savez que tous les calendriers ont été établis à partir du cours apparent des astres. Donc là, c'est comme si le temps se mettait à marcher réellement à partir du moment où le soleil, la lune et les étoiles étaient. Et puis le jour suivant de la création, le cinquième, si je ne m'abuse, c'est la création des animaux, tous créés simultanément, aussi bien dans l'air, sur terre et dans les eaux. Et puis le sixième jour de la création, c'est la création de l'homme, suivi dans d'autres vignettes, aussi notamment la création de la femme, c'est la création du premier humain. Et puis le dernier jour de la création, c'est un jour passif, mais c'est le jour de la plénitude où on a toute la totalité de la création qui est là, dans toute sa richesse et dans toute sa diversité. Alors il faut bien voir que ce récit de la création, qui est très fort, qui est très puissant, a réellement imprégné toute notre culture occidentale pratiquement jusqu'au XVIIe siècle. Bon, j'ai même au-delà sous d'autres formes, mais on trouve aujourd'hui encore quelques résurgences, bien entendu. Mais donc, a imprégné très fortement toute tentative d'organisation de la création. Il est vrai que les astronomes et les scientifiques de cette époque n'avaient pas beaucoup de moyens pour sonder le passé à la recherche d'un passé de l'univers, donc totalement enfoui. Alors il a fallu attendre, je le disais dans l'introduction, le 18e siècle, que l'on commence à remettre en question ce récit de la création, et notamment que l'on commence à remettre en question la date supposée de l'origine du monde, qui donc était supposée à cette époque datée d'environ 4000 ans avant Jésus-Christ. Et le premier qui a commencé à contester sérieusement cela, mais sur la base, non pas sur les bases théologiques, mais sur des bases réellement d'expérimentation scientifique, c'est le fameux Buffon, notre naturaliste. Il ne s'est pas occupé seulement d'animaux, il s'est occupé également de la création du monde, plus exactement de la création de la Terre. Et Buffon, c'était dans les années 1740, a élaboré une théorie de la Terre dans laquelle il propose un âge pour la Terre. Alors comment peut-il proposer un âge pour la Terre? Eh bien, il a fait des expériences publiques d'ailleurs, c'est-à-dire il a fait fabriquer des boulets de taille différente et de composition chimique différente, censés représenter l'état de la Terre primitive. Il s'est dit, la Terre au début, elle doit être très très chaude, donc il a fait chauffer ses boulets au rouge. Ensuite, il mesurait les temps de refroidissement de ces boulets lors de grandes séances publiques, parce qu'il avait le sens des médias, et il faisait venir 10 femmes du monde qui ôtaient leurs gants de soie et qui touchaient le boulet jusqu'à ce qu'elles ne se brûlent plus, effectivement mesurer le temps de refroidissement de ces boulets. Ensuite, il a extrapolé à un boulet gigantesque qui aurait la taille de la Terre pour en déduire le temps de refroidissement de la Terre, et c'est ainsi qu'il a trouvé 802 000 ans. Ce qui était quand même considérablement plus grand que les 4000 ans précédemment admis. Donc, un grand bouleversement dans les idées. Buffon aura quelques problèmes avec les autorités ecclésiastiques de son temps. Mais en tout cas, l'idée était en marche que l'âge de la Terre pouvait être très supérieur à tout ce qui avait été imaginé auparavant. Et toujours dans la poursuite du blocage, la création du monde s'arrête. Voilà. Et des contemporains de Buffon essaient d'améliorer, d'aller encore plus loin dans une description physique de ce que pourrait être une cosmogonie. Et ici, on voit une illustration extraite d'un ouvrage pratiquement oublié d'un visionnaire, en fait, qui était à la fois scientifique et visionnaire suédois, qui s'appelait Swedenborg, et qui a écrit un ouvrage étonnant dans lequel il décrit pour la première fois, il tente de décrire, la création du système solaire par l'hydromagnétique. Par le magnéto-hydrodynamique, comme on l'appelle aujourd'hui. C'est-à-dire par l'interaction entre champ magnétique et des fragmentations de nébuleuses solaires primitives. Des idées extraordinairement en avance sur son époque, et qui ne seront pas réétudiées avant de nombreuses décennies. Et au XIXe siècle, on commence à améliorer les télescopes, on découvre qu'il y a autre chose que des étoiles, qu'il y a des taches floues que l'on appelle une nébuleuse, et on s'interroge sur la nature de ces nébuleuses. Et c'est cette interrogation sur la nature des nébuleuses qui va totalement transformer en fait la vision cosmologique. En deux étapes. Première étape, on va s'apercevoir grâce à la spectroscopie qui va analyser le contenu chimique de ces nébuleuses, on va s'apercevoir que certaines d'entre elles sont des berceaux d'étoiles. C'est-à-dire qu'au sein de certaines nébuleuses gazeuses, on verra une photographie de terme plus tard, il y a des étoiles en formation. Donc, réellement, cette idée de passer d'un concept de création des astres à une époque extraordinairement reculée dans le passé, et puis tout est figé dans un univers statique jusqu'à aujourd'hui, prend sérieusement du plan d'ordre, puisque on voit au télescope des étoiles encore en train de se former. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un processus de création, mais le terme de création, de connotation, embêtante, donc on va passer par des processus de transformation et d'évolution qui font constamment apparaître de nouvelles structures dans l'univers. Et puis, ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'on va s'apercevoir qu'il existe une deuxième catégorie de nébuleuses qui joue un rôle aussi capital dans la compréhension de l'évolution cosmique. Il ne s'agit plus du tout de nébuleuses de gaz appartenant à notre galaxie, mais il s'agit de galaxies à part entière, semblables à notre propre galaxie, c'est-à-dire de gigantesques systèmes rassemblant des milliards d'étoiles, des nuages de gaz et de la poussière au sein desquels se passe donc un certain nombre de processus. Et à partir du moment où cette découverte, qui est due à l'astronome américain Hubble en 1925, il existe dans ce qu'on appelle une nébuleuse extragalactique, c'est-à-dire dans notre galaxie, on avait déjà un panorama d'un univers beaucoup plus vaste que l'univers qui aurait été réduit à une seule galaxie. Mais le coup de tonnerre va être, en fait, lorsque les astronomes vont analyser non pas la nature exacte de ces galaxies, mais leur déplacement, leur vitesse. Et les astronomes vont s'apercevoir, ça va marcher, que les nébuleuses extragalactiques sont soumises à un mouvement apparent d'éloignement, qui se traduit en fait de façon subtile dans l'analyse de leur rayonnement à travers les spectres que l'on prend. On voit que les raies spectrales des galaxies sont décalées systématiquement vers ce qu'on appelle la partie rouge du spectre, c'est-à-dire vers une plus grande longueur d'onde, traduisant donc en fait un éloignement apparent de la source. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. L'effet Doppler existe également pour les ondes acoustiques, c'est l'effet qui fait que lorsque vous entendez, par exemple, la sirène de la voiture de police qui se rapproche, le son devient plus aigu, c'est-à-dire la fréquence augmente, et lorsque la voiture s'éloigne, le son devient plus grave, les fréquences diminuent. Et bien pour les galaxies, qui nous envoient non pas des ondes sonores, mais des ondes électromagnétiques, et bien les fréquences sont systématiquement diminuées, ce qui semble traduire donc un éloignement systématique de toutes les galaxies. D'autre part, cet éloignement des galaxies, l'éloignement général n'est pas arbitraire, mais semble d'autant plus grand que les galaxies sont plus éloignées. Alors, sur le coup, ce peut être une information assez surprenante, comme on pourrait interpréter par une sorte de dilatation de l'univers autour de l'observateur, nous, c'est-à-dire dans une sorte de schéma, où ça, ce serait notre galaxie, puis ça, ce sont les galaxies extérieures, qui s'éloignent avec des vitesses proportionnelles aux flèches rouges, des vitesses d'autant plus grandes que les galaxies sont plus éloignées. Mais bien entendu, tout cela, ça s'est passé dans la décennie de 1920-1930, il n'était pas question de revenir sur une vision très copernicienne accordant une place privilégiée à la Terre, au Soleil ou à notre galaxie. L'idée, c'était que si les galaxies s'éloignent par rapport à l'observateur terrestre, elles doivent également s'éloigner par rapport à tout autre observateur. On se déplace instantanément à 2 milliards d'années lumière d'ici, qu'on observe le ciel avec des télescopes et qu'on fasse les mêmes mesures, on verrait également les galaxies s'éloigner de nous dans toutes les directions avec des vitesses apparemment proportionnelles à leur distance. Donc, le coup de tonnerre dans cette vision de l'univers, eh bien, il est proposé par un physicien belge qui s'appelle Georges Lemaître. Auparavant, il y avait également un mathématicien russe qui s'appelle Alexandre Friedman, qui ont interprété en fait. Lemaître part de cette donnée sur l'éloignement apparent des galaxies, et il dit que, en fait, ce qu'on assiste dans ce phénomène-là, ce à quoi on assiste, c'est une véritable expansion de l'espace lui-même. C'est-à-dire que ce ne sont pas les galaxies qui se déplacent dans l'espace, c'est l'espace qui contient les galaxies, c'est le contenant qui se dilate comme une sorte de tissu élastique qui emporte donc les galaxies en se dilatant lui-même. Alors, pourquoi a-t-il eu cette vision ? Eh bien, c'est parce que, précédemment, quelques années auparavant, un homme nommé Albert Einstein avait élaboré une nouvelle théorie sur la matière, la nature de la matière, de l'espace et du temps, qui s'appelle la théorie de la gravitation, qui s'appelle la théorie de la relativité générale. Donc ici, on voit le cliché d'Einstein qui donne son premier cours de relativité générale au Collège de France en 1921. Alors, la vision particulière d'Einstein de la nature de l'espace et du temps, et tout à fait rompt complètement avec les visions mécanistes, enfin, en tout cas la vision newtonienne précédente, en ce sens que pour expliquer les phénomènes gravitationnels, Einstein est obligé d'introduire ce qu'on appelle une courbure de l'espace et du temps. On peut figurer sur cette image de synthèse, vue d'artiste, si vous voulez, tout ce que peut être l'espace-temps courbé par la gravitation, donc courbé par la matière. Alors c'est un petit peu comme si en fait on considérait la nature, la structure même de l'espace, qui évidemment est quelque chose de tout à fait immatériel, de très abstrait, comme une sorte de tissu, même si c'est un tissu à trois ou même quatre dimensions si on incorpore le temps, un tissu élastique qui a des courbes et des bosses, et les courbures de ce tissu sont tout simplement causées par la présence de corps massifs, qu'il s'agisse de planètes, dont les masses sont faibles, dont les déformations du tissu sont faibles, mais au voisinage des étoiles, les déformations sont plus grandes, au voisinage des galaxies, les déformations sont plus grandes, en général les trous noirs qui sont les plus grandes concentrations de matière, les déformations de tissu élastique de l'espace-temps peuvent être absolument considérables. Donc on a une nouvelle vision, si vous voulez, de la nature de l'espace et du temps. Et c'est grâce à cette théorie donc, de la gravitation que l'on peut justifier formellement la découverte de l'expansion de l'univers. C'est-à-dire qu'on réinterprète effectivement correctement la fuite apparente des galaxies par une dilatation du tissu spatial, ce qu'a fait le maître, comme je vous le disais, mais il se trouve que c'est une solution exacte de la théorie de la relativité générale. Donc on a eu une heureuse coïncidence entre l'élaboration d'une théorie nouvelle et d'observations qui, conjuguées à la même époque, permettent de déboucher sur une vision de l'univers totalement nouvelle. Auparavant, on avait tendance à considérer, on s'était interrogé évidemment sur la création de l'univers, on s'était aussi un peu interrogé, commencé à s'interroger sur son évolution, mais tout cela dans un cadre préétabli à l'avance, c'est-à-dire un espace fixé à l'avance, un temps éternel, ou peut-être pas éternel, mais un temps tout de même échappant à l'emprise humaine. Et avec la théorie de la relativité générale, on a quelque chose de beaucoup plus subtil, on a un espace qui est lié inextricablement au temps et à la matière, et un espace qui évolue au cours du temps, autrement dit un univers qui n'est plus statique, mais un univers qui est dynamique. Et tout le travail de la cosmologie moderne consiste donc à élaborer un nouveau scénario fondé sur la théorie de la relativité générale, qui tente de reconstituer toutes les étapes de l'évolution cosmique. Alors je vous ai parlé donc de Lemaître, qui a élaboré donc avec Friedman les premières explications relativistes de l'expansion des galaxies. Et ce que vous voyez là, c'est une sorte de graphique, on dirait un petit peu un cahier d'écolier. Alors pas tout à fait un cahier d'écolier, puisqu'en fait c'est le premier graphique manuscrit jamais tracé donc de main humaine de ces fameux modèles de Big Bang qui, vous le savez sans doute, parce que tout le monde maintenant, plus ou moins cette culture scientifique de base, représente donc l'évolution d'une sorte de facteur d'échelle dans l'univers qui pourrait représenter, si l'univers était fermé et assimilable à l'atmosphère, qui pourrait représenter son rayon, ce n'est pas nécessairement le rayon de l'univers, l'univers peut être infini, tout en étant en dilatation, en tout cas un facteur d'échelle qui varie au cours du temps, avec donc les deux possibilités, un univers en expansion perpétuelle, ici c'est le temps, ici c'est l'espace, ou un univers qui est en expansion perpétuelle. Donc ici c'est un travail qui date de 1927, les graphiques dont j'avais été publié, qui ont été retrouvés dans les archives de Lemaître à l'université de Louvain. Alors en fait, ces modèles de Big Bang dont on parle encore beaucoup, qui suscitent beaucoup de controverses, et puis aussi beaucoup d'articles un peu sensationnels par la grande presse, par le gouvernement, les modèles de Big Bang et mis à bas par les nouvelles données observationnelles, etc. Il ne faut pas oublier que ces modèles de Big Bang ont une richesse potentielle extraordinaire. Ils reposent sur un certain nombre de paramètres, tels que l'ampleur de l'espace, l'intensité de l'univers, la sécurité d'ailleurs, la constante astrologique, et ainsi de suite. Et en fait, toute la richesse des modèles Big Bang se trouve dans cet ensemble de courbes extrêmement différentes et avec donc évidemment des interrogations cosmologiques d'aujourd'hui, c'est dans quel cas les figures se trouvent, est-ce qu'on est plutôt dans un univers d'expansion-contraction ou un univers en expansion perpétuelle mais dans lequel l'expansion se ralentit, serait un modèle comme ça, ou est-ce qu'au contraire on serait dans un univers avec une expansion qui s'accélère. Et bien pendant très longtemps on a cru qu'on était dans ce cas de figure. Et puis semblerait, encore faut-il vérifier ce type de mesure, depuis seulement quelques semaines, on a de nouvelles mesures qui sembleraient indiquer qu'on est dans le cadre d'un univers à expansion accélérée, c'est-à-dire l'une des courbes prévues par Lemaître, faisant intervenir donc un facteur supplémentaire qui s'appelle la constante cosmologique, c'est-à-dire une courbe comme cela. Mais peu importe, parce que dans ce que je vais vous raconter, c'est-à-dire le récit de l'évolution de l'univers, c'est que, mis à part cette exception-là, mais tout à fait anodine, toutes ces courbes-là ont le même passé. Et ce passé, c'est l'existence d'un point singulier initial qui marquerait en quelque sorte le début de l'expansion cosmique. Et un point initial qui va engendrer ce qu'on appelle des singularités mathématiques ou physiques, c'est-à-dire des infinis physiques ou des infinis mathématiques, et qui vont donc faire en sorte que ce début supposé, extrapolé à partir de ces courbes, échappe à l'investigation scientifique, car dès lors que les infinis apparaissent dans une théorie, on sait que la théorie n'est plus valable. Donc tout le travail des cosmologistes aujourd'hui, c'est d'essayer de reconstituer les différentes étapes de l'évolution cosmique jusqu'à une époque la plus proche possible du début de l'expansion de l'univers, jusqu'à l'époque présente, ce qui n'aurait pas été ici, l'univers n'a que 15 milliards d'années d'âge environ, et puis après extrapoler éventuellement sur le futur. Et donc, comme je vous le disais, donc, toutes ces courbes conduisent à l'idée que Lemaître avait appelé lui-même, un cahier d'écolier, la naissance même de l'espace. Une idée qui a rencontré beaucoup d'opposition, y compris de la part d'Einstein et d'autres astrophysiciens majeurs de cette époque. Alors, toujours est-il que c'est cette idée qui va finir par s'imposer au cours de quelques décennies. Pourquoi je vous montre cette image bizarre maintenant? Ça représente cette gravure du XVIIe siècle qui représente le chaos. Oui, je vous le montre maintenant, elle ne peut pas très bien passer. Oui, c'est parce que dans le scénario maintenant que je vais vous raconter, le modèle du Big Bang, amélioré depuis quelques années par l'inclusion de nouvelles théories sur la physique des particules, la physique des hautes énergies, on retrouve cette idée très ancienne et que la naissance de l'espace et du temps, c'est réellement parlé scientifiquement qui met naissance, a eu lieu à partir une sorte de chaos, mais un chaos qui lui va être rendu physique, qui va acquérir une signification physique. Mais simplement, ça, c'est pour rappeler que la notion de chaos se trouve, comme je vous l'ai dit, dans le monde futur. Et ça, c'est une gravure du 7e siècle qui montre un chaos bien étrange, dans lequel il y a déjà des créatures vivantes dans le chaos initial. Alors le chaos dont on parle aujourd'hui, on essaie de parler avec quelques physiciens, quelques cosmologistes, c'est plutôt un chaos des régimes quantiques. Alors pour expliquer ce que cela peut être, je ne peux utiliser évidemment que des métaphores. Parce qu'ici on est dans des domaines de température, dans des domaines d'énergie qui sont totalement inaccessibles à l'expérimentation en laboratoire. Alors depuis quelques années, s'est développé des théories qui essaient de compléter la théorie de la relativité générale dans le domaine, disons, de l'infiniment petit, pour simplifier, ce qui revient en fait à parler du domaine des températures très élevées ou des énergies très élevées. L'une des pistes qui sont suivies, car il n'existe pour l'instant pas de théorie cohérente de la gravitation dite quantique, l'une des pistes qui est suivie actuellement consiste à imaginer la vraie nature, la vraie structure de l'espace-temps comme une sorte d'écume bouillonnante d'énergie. Alors, dans la métaphore que l'on peut utiliser pour faire mieux comprendre ce concept, c'est la métaphore d'un océan. En haut, vous avez la surface d'un océan. Vu à haute altitude, c'est-à-dire avec une pauvre résolution qui me paraît complètement lisse et sans structure géométrique. Si vous vous rapprochez de l'océan, vous commencez à voir apparaître la structure géométrique. Les vagues. Et la surface de l'océan, il paraît que même une surface mathématiquement raisonnable continue, simplement qui est cabossée. Et si vous avez réellement la résolution suffisante pour voir la vraie nature de l'océan, vous apercevez que la structure de l'océan est extraordinairement compliquée, non seulement dans l'espace, mais également dans le temps. Elle est compliquée dans l'espace, puisque c'est même vu de descriptible par un espace mathématique ordinaire, puisqu'il y a des morceaux de l'océan qui sont détachés, en termes mathématiques, ce n'est même pas connexe, des morceaux disconnectés, si vous voulez, et puis c'est très compliqué temporellement, puisque ça change en permanence. L'océan bouillonne. Alors, l'une des idées, c'était que, c'est qu'en fait, la vraie nature de l'espace-temps, si on avait un énorme microscope qui nous permettrait de voir avec une résolution aussi grande que cette quantité-là, que l'on appelle la longueur de temps, 10 puissance moins 33 cm, c'est une longueur extraordinairement petite, eh bien, on verrait en quelque sorte un espace-temps fluctuer sous les effets, en fait, des effets quantiques. Et l'idée, c'était que l'une des idées possibles, c'est que les fluctuations d'énergie de cet océan quantique peuvent engendrer des univers à part entière. Parce que dans la théorie de la physique quantique, il y a une idée, quelque chose de très important, c'est le principe des certitudes, qui dit que quand on a par exemple un niveau d'énergie donné, bien ce niveau d'énergie fluctue, et sur des échelles de temps très courtes, une fluctuation peut être très très grande. N'est-ce pas ? Alors donc sur des échelles de temps les plus petites qui soient, il y a aussi le temps de Planck, bien une fluctuation d'énergie pourrait être le plus grand possible. Et certains ont imaginé un scénario qui s'appelle le scénario de l'inflation quantique, qui dit que des univers, je dis bien des univers à un niveau seul, peuvent naître à partir des fluctuations quantiques de l'espace-temps, un petit peu comme l'écume se détache de l'océan. Alors c'est une sorte de cosmogénèse quantique extrêmement enrichie par rapport aux idées initiales de Lemaître, dans lesquelles il y avait un seul Big Bang et la création d'un seul univers. Alors je vous montre une simulation numérique de ce qu'on peut appeler l'explosion du vide quantique. Les marquerait, ce n'est pas tout à fait le début de l'espace et du temps, parce que vous voyez qu'il y a quand même quelque chose de préexistant à cette explosion, probablement de l'espace, probablement du temps. Mais avec donc, cette énergie qui explose subitement, car elle est instable, le vide quantique est instable, et chacun de ces pics représenterait la probabilité d'apparition de tel ou tel univers. Donc dans un schéma comme ça, chaque pic engendre ce qu'on pourrait appeler un univers, c'est-à-dire un espace-temps avec ses propriétés physiques. Puis là, il peut y avoir une certaine valeur des constantes fondamentales de la nature, puis là-dedans, il va y avoir des univers qui vont durer un milliardième de seconde, des univers qui vont être éternels, des univers qui vont être en expansion de contraction, et ainsi de suite, et d'autres univers parmi cette multitude d'univers qui a son histoire particulière et qui serait né donc il y a à peu près 15 milliards d'années à partir donc, de cette situation. Ça, c'est une dimension numérique du même ordre. Alors, on a même imaginé qu'à partir de la création d'un univers, cet univers puisse être autoreproducteur, c'est-à-dire qu'on puisse engendrer par scission, comme une cellule qui se subdivise, puisse engendrer de nouveaux univers, c'est la théorie des, Baby Universe, les univers bébés, qui naissent à partir d'un univers, comme les visions univers en expansion, en inflation, se forment au trou noir, au niveau du trou noir, vous avez une boule qui se détache et vous avez un univers bébé qui naît dans des dimensions différentes, bien entendu, et ainsi de suite. Donc un univers éternellement reproducteur. Dans ce scénario-là, qui repose sur certaines équations de la physique contemporaine, qui ne sont confirmées par aucune expérimentation, vous voyez au moins que ces scénarios tentent d'évacuer le problème de l'origine. On a un univers éternellement reproducteur, il n'y a pas vraiment de début, en quoi que ce soit. Il y a en fait un concept de base, qui est un concept de vide, c'est-à-dire un concept d'énergie minimum, le vide qui fluctue, et à partir de ces fluctuations de vide, qui ne sont pas inscrites ni dans l'espace ni dans le temps, il y a des univers qui naissent en permanence, et en ce moment même dans la salle, si ce scénario est juste, il y a plein d'univers qui naissent entre vous et moi. On ne les voit pas, parce qu'ils naissent dans d'autres dimensions. Alors, je vais maintenant revenir à des choses plus raisonnables, c'est-à-dire à la description de notre petit univers, qui est né donc, on pense, il y a environ 15 milliards d'années, à partir peut-être donc d'une fluctuation particulière du vide quantique. Alors maintenant, je vais essayer de retracer, étape après étape, d'après nos connaissances actuelles, qui font mettre en jeu à la fois les connaissances en astrophysique, les connaissances en physique nucléaire, les connaissances en physique des particules, et ainsi de suite. De retracer pas à pas les différentes étapes capitales de l'évolution cosmique. Donc ici, c'est un schéma qui illustre comment a pu se passer ce qu'on appelle la nucléosynthèse, c'est-à-dire au bout de quelques fractions de secondes, disons un millionième de seconde, eh bien, il y a des particules élémentaires, c'est-à-dire les quarks, qui ont commencé à se coller les unes avec les autres pour former les premières particules élémentaires qui sont les protons et les neutrons. Alors ici, c'est un processus que l'on ne peut pas recréer en laboratoire par nos moyens actuels, mais on crée des artefacts de ce processus-là dans les laboratoires tels que nous gagnons à Caen, en faisant fusionner non pas des quarks entre eux, on ne sait pas le faire, en faisant fusionner des noyaux atomiques plus lourds, on les fait rentrer à haute collision, et finissent par se coller entre eux pour former des noyaux plus lourds. Donc, on a une sorte de petit laboratoire qui essaie de recréer les conditions de l'univers primitif. Tout ça pour me dire que ce processus de fabrication des premiers éléments atomiques dans l'univers s'est passé en environ 3 minutes. Environ 3 minutes. L'univers qui est en expansion, donc en refroidissement, est passé par une plage de température suffisante, une plage de densité suffisante, pour que certaines réactions se fassent entre les particules et pour que se forment les premiers éléments dits légers dans l'univers. Alors, on va appeler ça la nucléosynthèse primordiale. Non, un peu compliqué, mais synthèse des noyaux primordiales, parce que ça date des débuts de l'univers. Et les astrophysiciens ont reconstitué ces étapes-là. Et savent que seuls les éléments les plus légers sont formés dans cette nucléosynthèse. Ce sont le noyau de l'atome d'hydrogène, le simple proton, les isotopes, c'est-à-dire le deutérium, le tritium, et puis ensuite l'élément, le deuxième élément de la classification périodique, c'est l'hélium, le 4, il y a un isotope, il y a un 3, et puis le lithium. Et après, la nucléosynthèse s'arrête là. La nucléosynthèse primitive s'arrête là parce que l'univers, toujours en expansion ou en refroidissement, ne présente plus, au bout de quelques secondes seulement, les conditions requises pour fabriquer des éléments plus lourds. Mais ce type de matière-là, hydrogène et hélium, constitue largement plus de 99% de la totalité de la matière qu'il y a dans l'univers. Alors le 1% qui reste, on le verra, va se former beaucoup plus tard dans l'évolution de ce milieu. Mais déjà, on a en place à peu près 99% de la matière qui constitue l'univers d'aujourd'hui. Ceci. Alors ensuite, la deuxième étape dont je voudrais parler, c'est ce qu'on pourrait appeler l'apparition de la première lumière dans l'univers. Dans les théories de Big Bang, le fiat lux n'est pas au début de l'évolution de ce milieu. Il a lieu à peu près, selon le modèle, à peu près 1 million d'années après le début de l'évolution de ce milieu. Alors pourquoi pendant le premier million d'années de l'évolution cosmique, il n'y avait pas de lumière? Bien parce que l'univers était si dense qu'il en était total. L'univers était en fait un univers primitif, était une soupe très dense de particules élémentaires mélangées avec les particules du rayonnement, qui sont des photons. Mais en fait, le mélange était si chaud et surtout si dense que les photons, les particules de lumière, qui sont sensibles aux champs électriques, les électrons, les protons, etc., étaient constamment déviés de leur trajectoire et ne pouvaient pas circuler en ligne droite. Ils étaient constamment diffusés par les particules chargées initiales. Donc pendant son premier million d'années, l'univers ne laissait pas sortir la lumière. Il faut prendre ces termes entre guillemets, parce que dire laisser sortir la lumière, ça suppose qu'il y a un extérieur. Hein. On ne parle pas d'extérieur. Mais bon, la lumière, donc, ne pouvait pas se propager dans l'univers. Et puis à peu près, au bout d'un million d'années, quand on fait des calculs, on s'aperçoit que subitement, les distances moyennes, si vous voulez, entre les particules chargées, deviennent assez grandes pour que, subitement, les photons puissent enfin voyager et que la lumière puisse se propager. Donc, l'univers émet finalement sa première lumière, qui était contenue évidemment en germe, sous forme énergétique, bien entendu. Il émet sa première lumière à partir donc de cette phase, la phase de découplage. Et alors, cette lumière, eh bien, qui jaillit donc du fond des âges, c'est-à-dire jaillit il y a, disons, 15 milliards d'années, il est temps que ce soit passé il y a 15 milliards d'années, je dis ça parce qu'il y a une certaine incertitude sur cette époque. Et bien donc la lumière a voyagé dans l'espace et dans le temps et elle nous parvient aujourd'hui. Sous forme de quoi? Sous forme d'un vestige refroidi qui nous montre presque l'image même du Big Bang, qui nous montre l'image d'un univers jeune seulement de 1 million d'années. Le rayonnement se refroidit parce que l'univers se dilate depuis 15 milliards d'années. Donc en fait, le rayonnement se refroidit d'un facteur 1000 et il nous parvient aujourd'hui à une certaine température qu'on appelle la température de fond de l'univers. C'est la température moyenne aujourd'hui de l'univers. Elle est égale à 2,7 degrés absolu. À l'échelle absolue de température. Ce qui correspond en fait à moins de 178 degrés Celsius. Donc l'univers aujourd'hui est relativement froid. Mais les photons que l'on reçoit de cette façon ont été émis par l'univers à une époque où il était 1000 fois plus chaud. C'est la fameuse époque de découplage il y a 15 milliards d'années, moins 1000. Alors, les premières cartes en fait que l'on a obtenues de ce fond de rayonnement issu du fond des âges, le vestige du temps, datent de 1965, et on va lui, ça c'est une carte plus tardive, on va notamment le prix Nobel à Penthias et Wilson, qui étaient les deux radioastronomes américains qui ont détecté pour la première fois, par chance et par hasard d'ailleurs, ce rayonnement venu du fond des âges et qui avait été prédit notamment par le maître. D'ailleurs, pour la petite histoire, je peux vous dire que le maître, qui avait donc été le génial inventeur du modèle du Big Bang, avait toute sa vie s'était heurté à une totale incompréhension de la part des milieux scientifiques, et il n'y avait pas de confirmation, de preuve observationnelle à son idée, qu'il n'appelait pas l'idée du Big Bang, mais qu'il appelait l'idée de l'atome primitif, et ce n'est qu'en 1965 que la confirmation observationnelle des idées de Lemaître est venue. En 1965, c'est l'idée de la mort de Lemaître, c'est l'année de la mort de Lemaître. Et je sais que le maître a appris la découverte de ce fond diffus qui justifiait en fait toute sa vie de travail. Il a appris sur son lit de mort à l'hôpital, où il a atteint une leucémie, et c'est son secrétaire particulier qui est allé lui annoncer cette nouvelle, qui m'a raconté après. Et le maître a dit, je ne suis pas étonné, mais je m'en contente. Alors toujours est-il qu'à partir des années 1965, le modèle du Bang a réellement acquis une assise scientifique très solide, et depuis lors, les astrophysiciens, les cosmologistes surtout, ne cessent d'essayer de peaufiner ce modèle de base en l'améliorant par d'autres successives pour élaborer le schéma le plus cohérent de l'évolution cosmique. Alors, il n'est quand même pas facile d'extraire l'information à partir de cartes de rayonnement radio dans différentes domaines de l'horizon, parce que ce rayonnement venu de toutes les directions du ciel se trouve dans le domaine particulier du rayonnement radio. Précisément d'ailleurs dans les micro-ondes, voilà, des détecteurs spéciaux pour analyser ce rayonnement. Évidemment, il y a énormément de bruit parasite, c'est-à-dire on n'accède pas directement au rayonnement issu du fond des âges. Quand on a une carte brute comme celle-là, on a à la fois des régions qui sont à la température la plus forte et des régions à la température la plus faible, mais on sait que c'est dû en fait au mouvement de la Terre, le mouvement de la Terre par rapport aux astres qui sont lointains, qui crée une sorte par effet Doppler. Une température apparemment un peu plus élevée dans la direction globale, dans la direction opposée, une température légèrement diminuée. Et puis également, il y a la contribution de notre propre galaxie, la T1, laquelle nous sommes, qui introduit donc ce rayonnement radioparasite. Et lorsqu'on fait la soustraction de tout cela, lorsqu'on enlève tous ces parasites, on accède à la vraie nature de l'univers primitif, et on obtient, avec, en augmentant la sensibilité, une carte extraordinaire, qui est celle-là, peut-être une des images les plus émouvantes de toute l'astronomie, à condition de savoir de quoi il s'agit, bien entendu, puisque donc, c'est réellement l'univers dans son berceau, à peu près 1 million d'années après sa naissance, et dans lequel, en fait, la sensibilité des instruments est si grande que l'on peut mesurer les écarts de température sur toute la voûte céleste de seulement 1/100 millième de degré. 1/100 millième de degré seulement. Cela veut dire qu'en fait, la température de dans toutes les régions du ciel est presque parfaitement uniforme, 2,72 degrés avec 3 chiffres significatifs supplémentaires, ceci en toutes les régions du ciel, qui montre donc que l'univers primitif était une soupe presque parfaitement homogène. Mais presque, tout est dans le presque. Parce qu'il y avait quand même des grumeaux dans la soupe, c'est-à-dire de légères inhomogénéités. Des endroits, des régions, la température était légèrement plus élevée. La densité, c'était au monde à cette époque. Et ce que vous voyez là, ce sont les germes, précisément, les grumeaux, en quelque sorte, de toutes les structures astronomiques futures. Ce que vous, les taches rouges que vous voyez là, ce sont des régions où la température ou la densité est supérieure seulement de 1/100 millième à la température par rapport à la température moyenne. Donc ces infimes grumeaux dans la soupe cinétique, au cours de l'évolution cosmique, ce sont eux qui vont causer la formation de toutes les structures astronomiques que l'on connaît aujourd'hui. Donc ici, on a une carte de l'univers primitif qui montre donc un état de l'univers antérieur à la formation des étoiles, à la formation des galaxies. Ce sont des cartes qui ont été obtenues dans les années 1990 grâce à un satellite qui s'appelle Kobe. Alors ensuite, une des grandes questions que se posent les astrophysiciens, c'est d'essayer de faire le lien entre ces fluctuations du rayonnement primitif et les premières galaxies. Je pense que toutes les galaxies se sont formées à peu près à la même époque, il y a 10, 12 milliards d'années, on n'est pas très sûr de cela, et donc il faut réussir à faire le passage. Alors à partir de l'image précédente, des fluctuations du fond diffus, vous imaginez le jeu de la gravitation. Dès qu'il y a un grumeau, la gravitation agit sur ce grumeau et a tendance à condenser davantage le grumeau. Donc on peut imaginer qu'effectivement, toute une structure astronomique, au bout de 1 à 2 milliards d'années d'évolution, et en laissant faire le jeu de la gravité, toutes ces infimes grumeaux ont fini par se condenser en rassemblant de plus en plus de matière pour former les grandes structures astronomiques qu'on appelle aujourd'hui des galaxies, des amas de galaxies. Alors donc, l'un des grands enjeux de la cosmologie sur lequel travaillent beaucoup de personnes actuellement, en particulier ici, l'Institut de la physique, qui est l'Observatoire de Meudon, c'est le problème de la formation des grandes structures, formation des galaxies. Bien, figurez-vous qu'on ne sait toujours pas si ce sont des étoiles ou les galaxies, ou des regroupements de galaxies qui se sont formés en premier. Ce sont des scénarios différents, et actuellement, on ne peut pas vraiment trancher entre ces différentes hypothèses. Vous voyez que dans une hypothèse, par exemple, ce sont des étoiles qui se forment en premier, donc on forme d'abord des petits grumeaux, des augmentations de densité, et puis ce sont ces étoiles qui, sous le jeu de leur propre gravité, vont se regrouper en galaxies, et ainsi de suite, et puis les galaxies vont se regrouper en amas de galaxies. C'est un scénario qui parle. Qui va vers le haut. Et l'autre scénario, au contraire, on peut imaginer au contraire, à partir des grandes fluctuations initiales, la formation de gigantesques nuages de gaz absolument immenses qui se fragmentent au contraire. Et donc on part de grandes structures qui se fragmentent petit à petit pour former des superamas, des amas de galaxies, puis des étoiles. Alors donc ces deux scénarios sont en compétition. Cela dit, et donc c'est l'un des grands problèmes de la formation des galaxies. D'autant que quand on fait des observations sur la répartition de la matière dans l'univers, on s'aperçoit que les galaxies ne sont pas du tout distribuées de façon homogène, mais qu'elles semblent distribuées dans une structure qui rappellerait un petit peu la structure de la mousse de savon. Vous savez, vous mettez du savon dans votre bulle, vous faites couler l'eau, vous obtenez des bulles. Ça veut dire que ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que dans les bulles, c'est à peu près vide, et puis l'eau se trouve sur les parois, la surface des bulles, puis aux zones de contact des bulles, la densité est encore plus grande. Bien, il se pourrait que la structure de l'espace à grande échelle soit un petit peu de cette façon. C'est-à-dire qu'il existe de grandes régions apparemment vides de galaxies, ensuite les amas de galaxies se trouveraient sur les parois de ces grandes bulles vides, et puis aux zones de contact entre les parois, il y aurait encore plus de galaxies, c'est-à-dire qu'il y aurait des amas d'amas de galaxies qu'on appelle des super-amas de galaxies. Et tout ça, qu'elle semble observer, c'est très difficile. Il n'empêche que grâce aux images, voilà, nous avons des images aussi astronomiques, télescopiques cette fois-ci, c'est-à-dire en domaine visible, ce sont les fameuses images du télescope spatial Hubble. Voilà que grâce donc aux télescopes les plus perfectionnés, on commence à voir apparaître donc dans le télescope des galaxies très jeunes, voire même des galaxies en formation. Alors ceci est un cliché particulier qui a été pris en 1996 par le télescope spatial Hubble, dans lequel il semblerait, on a repéré dans ce champ de ciel, dans lequel ici il y a une étoile qui est juste à côté, là, avec une lumière, puis là vous avez quelques galaxies qui sont quelques centaines de millions d'années de lumière, mais on ne s'intéresse pas à ça. On s'intéresse à des structures beaucoup plus floues qui sont celles-là, et qui apparemment sont situées vraiment aux confins de l'espace observable, à 12 ou 13 milliards d'années, donc au début également de l'évolution de l'univers. Et il semblerait que parmi toutes ces structures que l'on voit, il y en a environ 18 qui correspondent chacune à des sortes de gros amas d'étoiles, n'est-ce pas, l'équivalent de 3 millions d'étoiles, rassemblées dans un certain volume, à peu près de 2 millions d'années-lumière de diamètre. Et, de 10 000 années-lumière de diamètre, chaque amas d'étoiles. Et puis tous ces amas d'étoiles semblent liés dans une même région de l'espace pour constituer une galaxie qui va se former. Donc si l'on interprète correctement ce cliché, cette interprétation de ce cliché est correcte, il semblerait que ce soit plutôt le scénario où on part du bas pour aller vers le haut. C'est-à-dire qu'on a d'abord formé les étoiles, puis les amas d'étoiles, puis les galaxies. Mais la question reste de même ouverte. Alors ben, voici un autre cliché du télescope spatial Hubble qui montre cette prodigieuse diversité et variété des galaxies donc, qui se sont formées tout à peu près à la même époque, y compris notre propre galaxie, il y a à peu près donc, 12 milliards d'années. Alors il faut savoir qu'un champ de vue comme ça, c'est un champ en fait extrêmement réduit, correspond à peu près au chat d'une aiguille tendue en deux bras, et derrière ce champ, sur la place du télescope spatial, on voit donc, des myriades de galaxies apparaître. Extrêmement riche en galaxies. Ensuite, on fait une plongée dans l'une de ces galaxies particulières. Alors, pas le temps du tout de décrire les différentes formes des galaxies, il y a des elliptiques, des irrégulières, des galaxies spirales, et ainsi de suite. On va s'intéresser à une galaxie dite spirale. Alors là, on ne s'aperçoit pas du tout qu'elle est spirale. Pour s'apercevoir, il faudrait aller au-dessus et voir qu'en fait, le disque plat de la galaxie n'est pas rempli uniformément de matière, mais comporte de grands bras qui rassemble en fait les nuages de gaz et les étoiles, qui est en forme de spirale. Ça s'appelle des galaxies spirales. Alors, on s'intéresse particulièrement aux galaxies spirales parce qu'il se trouve que notre propre galaxie, la Voie lactée, est une galaxie spirale. Alors, ceci est une galaxie extérieure, qui serait en quelque sorte une jumelle de notre propre galaxie. Simplement pour fixer les idées, s'il s'agissait de notre galaxie, le Soleil se trouverait dans le disque central, aplati, qui rassemble la majorité de la masse de la galaxie. En étoile et en gaz, et se trouverait à la périphérie, le tout animé d'un mouvement de rotation autour du centre galactique, et à la distance du Soleil, le mouvement de rotation galactique à une période d'environ 250 millions d'années, ce qui n'est pas plus court que le Soleil, et faire le tour de notre galaxie. Alors maintenant, on va plonger au sein de notre galaxie pour voir ce fameux processus de création toujours à l'œuvre dont je vous ai parlé, mais au niveau des étoiles, c'est-à-dire les berceaux d'étoiles. Alors les berceaux d'étoiles, ce sont des nuages de gaz dans notre galaxie, qui sont en fait en interaction avec des étoiles déjà formées et de la poussière. Une galaxie, ce n'est pas du tout un ensemble d'étoiles séparées par du vide, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, extrêmement riche, qui mêle du gaz interstellaire, des étoiles déjà formées, et de la poussière formée par une génération antérieure d'étoiles. Donc ici, vous avez quelques paysages cosmiques que tous les amateurs d'astronomie connaissent, les gros étoiles d'astronomie, on voit vraiment cette interaction qu'il y a entre les étoiles, entre les nuages de gaz, les différentes couleurs, parce que les températures sont différentes, selon c'est rouge, selon c'est bleu, etc., qui vont être plus ou moins ionisées, et puis de grands bandes de poussière obscure qui absorbent le rayonnement. Donc voici un autre site absolument remarquable dans la constellation d'Orion, avec cette fameuse excroissance qui s'appelle la nébuleuse de la tête de cheval, toujours interaction. Étoiles, matière, gaz et poussière. Et puis, ce fameux cliché du télescope spatial, si spectaculaire, comme on les a appelés les piliers de la création. Alors, en fait, ça s'appelle la nébuleuse de l'aigle, parce que ça rappelle un petit peu les nids d'aigle, vous savez, les perches d'aigle au sommet d'une grande structure. Alors, en fait, il s'agit donc de billets de gaz, hein, très ténus, bien entendu, de quelques années-lumière de hauteur, et en fait, ces billets de gaz semblent produire des étoiles en formation. Quand on fait un agrandissement, on regarde avec un peu plus de détails la structure d'un pilier. Vous voyez ici des sortes d'excroissances qui semblent être en train de se détacher du pilier de gaz. Puis il y en a qui se sont déjà détachés ici. Voilà. Et les astronomes suspectent que ce sont en fait des embryons d'étoiles qui sont en formation et qui se détachent du nuage. Donc on assisterait réellement à l'éclosion d'étoiles dans ce nuage de gaz. C'est pour ça que les Américains ont appelé le terme de spectaculaire les piliers de la création. Maintenant, je vais vous montrer une série de clichés qui illustrent ce que l'on pense être dans les grandes lignes, parce que le processus échappe encore à notre analyse complète, mais dans ces grandes lignes, et illustrent le processus de formation d'une étoile. À partir de ce que l'on appelle un sac à charbon, qui, si j'utilisais une image un petit peu anthropomorphe, représenterait la matrice dans laquelle va se former l'étoile. Donc, dans un sac à charbon, c'est en fait une région d'un grand nuage interstellaire. C'est une région froide dans laquelle il y a un excès de densité, beaucoup de poussière se sont enfouies. Donc on n'y voit rien. Et en fait, en germe, dans ce sac à charbon, il y a des germes d'étoiles. Et on peut le savoir en faisant une échographie de cette matrice. Alors cette échographie, on ne l'a fait pas en rayon X, on l'a fait en infrarouge. Alors voici le cliché où on a fait une échographie d'une matrice stellaire où on voit effectivement des embryons d'étoiles. Ce sont trois proto-étoiles qui, effectivement, vous voyez, ne sont pas formées parce qu'elles ne sont pas encore sculptées par la gravitation. Et pas la gravitation à la force dominante, et donc elles n'ont pas de forme sphérique. Donc ce sont réellement des embryons d'étoiles. Une autre région de la galaxie nous montre ce que l'on pourrait appeler un accouchement d'étoiles. C'est-à-dire qu'on a effectivement un sac à charbon ici qui a engendré, il y a environ 100 000 ans, toute une nichée d'étoiles, que vous voyez ici, qui sont donc sorties de ce nuage sombre, et ce sont des étoiles extrêmement jeunes, ce sont en fait des bébés étoiles, parce que 100 000 ans, sur l'échelle de la vie des étoiles, c'est extrêmement court. Alors ce ne sont pas encore tout à fait des étoiles adultes, je vais vous montrer des étoiles pas encore adultes, mais un peu plus avancées, qui sont en fait, on pourrait appeler des étoiles adolescentes, ce sont des étoiles bien connues en fait de tout le monde, ce sont les fameuses Pléiades. On voit le nuit, on ne voit pas les nébulosités. Avec un télescope, on voit une nébulosité gazeuse. Et c'est quoi cette nébulosité qui entoure ces étoiles? Eh bien, ce sont les lambeaux du nuage de gaz primitif qui les a formés. Donc on voit encore les étoiles encore naissantes qui ne se sont pas encore tout à fait débarrassées du nuage de gaz dans lequel qui a permis leur formation. Parce que à partir du moment où les étoiles commencent à se dissocier du gaz qui les a formées, elles émettent un puissant rayonnement, et ce rayonnement va dégager le gaz qui les a formées. Là, on assiste à une étape intermédiaire. Cela signifie que les Pléiades sont des étoiles jeunes, environ 1 à 2 millions d'années seulement. Voilà. Il y a un très joli poème de Paul Claudel sur ces Pléiades. Paul Claudel est vivé au début du siècle, et c'est à l'époque où on a commencé à prendre les premiers clichés avec le télescope. Et donc, il a été très impressionné par. Il a été très impressionné par la vision d'une photographie noir et blanc de l'époque des Pléiades, et il a écrit dans un long poème, je vous lis un tout petit extrait, comme on voit les petites araignées ou certaines larves d'insectes comme des pierres précieuses bien cachées dans leur bourse d'ouate de satin, c'est ainsi que l'on m'a montré toute une nichée de soleil, encore embarrassée au froid pied de la nébuleuse. Très belle description de cette photographie de l'étoile amène. Et puis donc l'étoile adulte, ce qu'on peut appeler l'étoile adulte, c'est évidemment le Soleil. On dit que c'est une étoile adulte parce qu'elle a atteint un équilibre physique entre, d'une part, la tendance à l'effondrement qui est poussée par les forces de gravité, évidemment, tendance à attirer toutes les particules au centre du Soleil, et puis la libération d'énergie au centre du Soleil qui contrebalance exactement cette tendance à. Et au cours de sa vie d'adulte, l'étoile est en quelque sorte un équilibre entre cette tendance à l'explosion et cette tendance à l'effondrement sur un nuage. Alors donc, c'est ainsi que notre Soleil effectivement, est dans cet état. Et alors, si maintenant on s'intéresse à l'origine même de notre Soleil, il est clair que le Soleil n'est pas une étoile de première génération. C'est-à-dire que sur les 15 milliards d'années d'évolution cosmique, de nombreuses générations d'étoiles se sont succédées. Une génération d'étoiles, c'est une étoile qui naît à partir d'un nuage de gaz, qui atteint son stade adulte, qui brûle ses réserves de carburant, d'hydrogène, d'hélium, etc. Et lorsqu'elle a épuisé ses réserves de carburant, elle explose, par exemple, une fusion de supernova, donc d'autres formes, si vous voulez, et elle va en quelque sorte restituer au milieu interstellaire ce qu'elle a fabriqué au cours de son existence. Et qu'est-ce qui fabrique une étoile au cours de son existence? Elle fabrique les éléments lumineux. Ce qui manquait justement au début de l'univers. Ce que n'avait pas réussi à créer l'univers primordial, tous les éléments lumineux. Je ne suis plus la table périodique des éléments. Alors, le Soleil n'est pas une étoile de première génération, mais on pense qu'il s'est formé il y a 4,5 milliards d'années. Et on a un scénario de formation du système solaire, qui est évidemment très amélioré par rapport aux premières idées de Swedenborg et de Buffon, dont je parlais tout au début, qui grosso modo, c'est encore ceci, c'est une étude d'artiste, qui grosso modo consiste en la fragmentation d'une nébuleuse protosolaire qui se fragmente sous l'effet d'une perturbation, qui peut être de différentes natures, et donc après on a un disque aplati en rotation, avec une bulle centrale qui finit par former l'étoile principale qui est le Soleil, puis dans ce qu'on appelle le disque d'accrétion, le mélange de poussière, de gaz, de petits cailloux qui finissent par s'agglomérer pour former les planètes. Ceci serait un processus donc assez rapide. Alors comment arriver à dater la formation du système solaire? Alors d'abord on a une idée. Il est impossible de voir directement, évidemment, la formation de notre propre système solaire. Mais on va regarder d'autres systèmes stellaires qui, eux, sont en retard d'évolution par rapport à nous, si vous voulez, qui sont en train de se former aujourd'hui. Alors ceci, c'est un exemple d'un système stellaire vraisemblablement en train de former les planètes. Ça s'appelle Beta Pictoris. Alors, personne ne travaille ici sur ce système très très important, dans lequel donc, on a une étoile centrale et un disque de gaz qu'on voit ici par la France. Et les astronomes soupçonnent que dans ce disque, il y a déjà des planètes qui sont formées, peut-être même des comètes qui sont en train de tomber sur l'étoile centrale. Donc là, en regardant les systèmes solaires extérieurs en train de se former, on a évidemment des idées sur la façon dont notre propre système solaire s'est formé. Et puis on a aussi des témoins directs, si vous voulez, de la façon dont le système solaire a pu se former. Ce sont certains types de météorites. Alors, c'est un vaste sujet des météorites, mais simplement, je voudrais dire qu'il existe des météorites particulières qui semblent les témoins du nuage protosolaire lui-même. Alors, on a retrouvé au Mexique, dans un site qui s'appelle Allende, les fragments d'une grosse météorite qui est tombée en 1968, si je ne me trompe pas, c'est brisé en quantité de fragments. Donc, on a recueilli ces fragments, on les a analysés, et on a trouvé dans ces fragments des sortes de petites inclusions blanches. Sur lesquels on a fait donc des analyses chimiques très précises. On appelle ça plus précisément des analyses isotopiques, puisqu'on analyse en fait des proportions relatives de certains isotopes radioactifs instables donc, qui se trouvent dans cette roche. Et connaissant les temps de vie, les temps de désintégration de ces éléments, on en déduit l'âge à laquelle ces éléments, l'époque à laquelle ces éléments ont été incorporés initialement dans cette météorite. Et alors, en analysant donc, ces fragments de la météorite Allende, certains astrophysiciens ont émis l'hypothèse qu'on tenait là un caillou qui était en quelque sorte l'acte de naissance même du système solaire, car ce caillou aurait reçu l'irradiation d'une supernova qui aurait explosé dans les barrages, et cette supernova qui aurait déclenché la formation du système solaire, en déstabilisant la nébuleuse protosolaire. Le caillou, la météorite, qui existait déjà dans la nébuleuse protosolaire, a reçu rayonnement cosmique et autres, qui a transformé, en fait des transformations chimiques isotopiques, que l'on retrouve donc aujourd'hui dans cette météorite. Cette météorite est restée dans le système solaire pendant 4,5 milliards d'années, et un jour a fini sur Terre. Et donc on aurait un témoin direct de la naissance même du système solaire, puisque ce caillou serait même en fait antérieur à la formation du Soleil. Et donc grâce à ça, on peut dater avec une assez grande précision, la naissance du système solaire, 4,56 milliards d'années. Donc à partir de là, le système solaire a évolué. Il a formé son cortège de planètes. Vous voyez ici, pour le moment, Saturne appelle, mais c'est pas grave. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système solaire, c'est vraiment des informations astronomiques très très générales que je vous donne, parce que je suis obligé de passer un panorama très général lui-même de l'évolution cosmique. Bon, vous savez évidemment que dans le système solaire, il y a des planètes dites telluriques, qui sont les quatre planètes les plus proches du Soleil, qui elles ont une surface solide, et puis les planètes extérieures sont des planètes géantes et gazeuses. Voilà. Elles ont subi des évolutions différentes, vraisemblablement dues au fait qu'elles sont à des distances différentes du Soleil, donc les gaz volatiles sont des planètes proches, se sont évaporées, tandis que pour les planètes lointaines, les gaz sont restés. Alors, ce qui est intéressant dans l'évolution du système solaire, parce qu'on est toujours dans l'optique d'une évolution cosmique, on regarde maintenant le système particulier, celui qui est à notre portée, et le système solaire, le nôtre. Ce n'est pas forcément le reflet de ce qui se passe ailleurs dans l'univers, mais bon, au moins, c'est celui qu'on a sur la main pour étudier. Quand on regarde maintenant le destin de trois planètes qui sont nées à peu près au même moment, dans des conditions très voisines, on peut appeler les planètes sœurs, ce sont Vénus, la Terre et Mars. Vénus a beaucoup plus soleil que la Terre, et Mars a beaucoup plus loin. Vénus a pratiquement la même masse que la Terre, Mars est un peu plus léger que la Terre, enfin grosso modo les conditions initiales sont les mêmes. Pourtant, ces trois planètes ont connu des sorts extraordinairement différents. Vous voyez ici un paysage vénusien reconstitué par radar, parce qu'en fait Vénus est recouverte d'une épaisse couche atmosphérique chargée de nuages d'acide sulfurique, des choses absolument incroyables, avec un effet de serre considérable qui élève les températures à la surface de Vénus à des valeurs aussi élevées que 500 degrés de façon uniforme. Donc Vénus est un enfer absolument inhospitalier. Ceci, c'est un paysage vénusien. A l'inverse, quand on regarde la planète Mars, la planète rouge, donc de l'autre côté, qui est plus éloignée du Soleil que la Terre, et en fait, on s'aperçoit que Mars est un monde mort, qui a pratiquement perdu son atmosphère, donc ça, c'est un cliché de la planète Mars, pris par le télescope spatial, mais on soupçonne que dans le passé de Mars, il y a dû y avoir des choses intéressantes, c'est-à-dire que Mars n'a évidemment pas toujours été une planète morte, et on voit notamment d'immenses balafres, des cicatrices, qui sont, ce qu'on croyait, des fameux canaux de civilisation extraterrestre au début du siècle, ce sont des structures naturelles qui sont probablement des lits d'anciennes rivières. Ici, c'est le Grand Canyon, qu'on appelle le Valles Marineris, un gigantesque balafre, qui et on voit ici d'autres structures, qui sont sans doute effectivement le reste d'une activité passée de Mars dans laquelle il y avait de l'eau liquide en abondance sur la planète de Mars, qui a perdu de 5 milliards d'années. Mais les conditions ont rapidement bifurqué, et Mars est aujourd'hui un véritable désert, comme vous le voyez ici sur ce fichier, pris à la surface même de Mars, un désert extrêmement aride. Mais avec tout de même un enjeu important, c'est d'essayer de retrouver à la surface de Mars des éventuelles traces de cet état primitif, peut-être semblable à celui de la Terre primitive. Mars, il y a 3,5 milliards d'années, il y a peut-être des organismes cellulaires qui se sont développés, des organismes primitifs qui se sont développés sur Mars, d'où l'intérêt des missions martiennes du 19e siècle. Pour essayer effectivement de retrouver des éventuelles traces de vie. Et puis on en arrive à la Terre, qui sans chauvinisme aucun est la plus belle planète du système solaire, parce que c'est la plus complexe sur le plan géophysique, et c'est la seule planète à avoir de l'eau liquide, même qu'il y en ait peut-être sur certaines Jupiter, avec donc une atmosphère. Et c'est la seule planète sur laquelle se soit développée. Autant qu'on le sache, la vie. Alors, quand on parle, quand on fait un récit de l'évolution cosmique, on cultive forcément des grandes interrogations sur l'apparition de la vie. Alors, sur le plan astronomique, on peut dire que c'est un effet de sélection extraordinaire. Bon, la vie, on n'a pas vu plus basse ailleurs dans l'univers. Le fait de s'intéresser à la vie sur Terre n'est peut-être pas du tout le reflet de l'évolution cosmique en général. Bon, de l'autre côté, j'ai choisi de vous parler de l'origine de l'évolution cosmique, non seulement à travers la théorie du Big Bang, mais aussi à travers un petit peu quelques récits et mythes cosmogoniques de différentes cultures. Dans toutes les cultures, on s'est évidemment interrogé sur également l'origine de la vie et des créatures vivantes. Donc, il est naturel aussi d'avoir cette interrogation quand on analyse l'évolution cosmique dans le cadre des théories du Big Bang. Alors, des scientifiques sont sérieusement commencé à se demander, à essayer d'imaginer des processus physico-chimiques qui ont pu se dérouler dans la Terre primitive de façon à ce que les premiers organismes vivants apparaissent. Alors ceci est une gravure extraite d'un ouvrage bien connu de Camille Flammarion, de la fin du siècle dernier, mais pour Flammarion ce n'était pas l'état de la Terre primitive, pour lui c'était Jupiter. Flammarion ignorait en fait à cette époque, il ignorait tout à fait la nature absolument gazeuse de Jupiter. Voilà. fait, lui, il avait imaginé plutôt des océans, vous voyez, agités de grandes tempêtes, avec des éclairs de rayonnement ultraviolet, etc., de grands orages, et ainsi de suite. Il se trouve que, en fait, ce pourrait être les conditions de la Terre primitive. C'est-à-dire de l'eau liquide, de l'eau vapeur, tout ça bombardé par du rayonnement, c'est-à-dire donc une soupe prébiotique, comme on l'appelle, bombardé par de l'énergie solaire. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, des physiciens ont essayé de recréer ces expériences en laboratoire, qui s'appelaient Urey et Miller, dans les années 40. Ils ont mis dans une cornue ce qu'ils croyaient être la constitution chimique de la Terre primitive, c'est-à-dire de l'eau liquide, de la vapeur d'eau, et puis quelques de méthane et quelques éléments, quelques gaz carboniques, ainsi de suite. Ils ont bombardé par de l'environnement ultraviolet au bout d'une semaine, c'est-à-dire faire un système solaire en accéléré, et au bout d'une semaine, ils ont ouvert, ils ont regardé la nouvelle composition chimique, et ils ont eu la stupeur de découvrir que c'était créé naturellement les acides aminés. Les acides aminés qui sont des molécules extrêmement complexes, qui sont à la base de tous les systèmes vivants. Alors ceci a laissé de grands espoirs sur la possibilité de comprendre le processus de formation de la vie à partir de conditions physiques et chimiques primitives, mais on a dû rapidement déchanter, car aucune expérience n'a pu faire mieux que de fabriquer ces bases primitives, que sont les vins acides aminés. Alors, toujours est-il qu'on en arrive à l'idée qu'aujourd'hui, la formation de la vie sur Terre remonte quand même à une époque extrêmement lointaine, puisque si les premières molécules vraiment sont encore les molécules vivantes elles-mêmes, qui sont les briques du vivant, remontent à une époque de l'ordre de 4 milliards d'années dans le passé de notre Terre, les premiers organismes réellement vivants, qu'on appelle les cellules prokaryotes, des organismes extrêmement primitifs, puisqu'il n'y avait même pas de noyau par exemple, remontent à peu près 3,4 milliards d'années. Et on a effectivement trouvé des roches en Australie, des fossiles d'organismes datant de cette époque. Oh, non, c'est pas ça. Ça, pardon. C'est un fossile, un microfossile, datant de 3,5 milliards d'années emprisonné dans des roches en Australie. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on sait que la Terre, qui est née il y a 4,5 milliards d'années, pendant quelques centaines de millions d'années, a été bombardé par un véritable déluge de comètes, de météorites et ainsi de suite. Parce que le système solaire primitif était extrêmement agité, il y avait des corps qui circulaient dans tous les sens, et tous les corps étaient bombardés, comme en témoigne les cratères de la Lune et ainsi de suite. Les cratères des corps qui ne sont pas protégés par l'atmosphère. Alors la Terre elle-même a été bombardée. Évidemment, toutes les conditions on imagine propices à l'apparition de la vie ne pouvaient pas être réunies sous ce véritable déluge. Et puis au bout de 600 à 700 millions d'années, les choses se sont un petit peu calmées. Il restait simplement quelques astéroïdes, un cycle d'astéroïdes, puis quelques comètes, et le taux de bombardement a chuté considérablement, comme on le voit aussi toujours sur la cristallisation des autres planètes et de la Lune. Eh bien, ce qui est surprenant, c'est qu'il semblerait que la vie soit apparue dès que le bombardement a cessé. C'est-à-dire dès que les conditions à peu près normales, sont réunies, c'est-à-dire un peu de liquide, de la vapeur, un peu d'énergie solaire, et puis les molécules organiques, les premières molécules organiques qui étaient là, eh bien, la vie serait apparue. Alors, bah, après, ça échappe complètement à mon domaine de compétence, c'est-à-dire l'évolution du vivant, et puis cette fameuse molécule d'ADN qui transporte toute cette information génétique. Ah ben voilà, les fameux fossiles trouvés dans les roches. Dans les roches en Australie, donc ce sont les plus anciennes formes de vie aujourd'hui comme 3,5 milliards d'années. C'est encore une gravure un peu bizarre du 7e siècle qui montre bien le contraste entre notre scénario d'aujourd'hui sur l'apparition de ces premiers organismes vivants, c'est-à-dire les premiers animaux, avec ce que nous imaginions à une certaine époque pour la création des animaux. C'est pas tout à fait le même scénario. Pour en venir donc à la dernière interrogation finale qui est l'apparition de l'intelligence ou l'apparition de la conscience qui est liée apparemment à l'élaboration d'une structure complexe qui s'appelle le cerveau, un réseau neuronal. Alors ce que l'on voit ici, c'est ce qu'on appelle une tomographie du cerveau qui permet de mesurer l'activité cérébrale. Et là vous avez une zone excitée du cerveau en jaune, et en fait montre le cerveau en train de consommer de l'oxygène, du glucose, autrement dit le cerveau qui est en train de penser. Et c'est évidemment cette activité de pensée qui permet de reconstituer toute l'histoire de l'évolution cosmique. Alors, ceci est un cas très particulier de l'évolution cosmique, puisque jusqu'aux dernières nouvelles, la conscience n'est apparue que sur Terre. Vous vous doutez bien que derrière, il y a toutes les grandes questions, une question métaphysique qui déborde largement au cœur des connaissances actuelles de la science. Est-ce que ce processus qui est inscrit dans les conditions de l'univers, c'est-à-dire est-ce que si dès que les ingrédients sont réunis sur telle ou telle planète, etc., est-ce que la vie réellement apparaît? Donc est-ce qu'il y a beaucoup de vie dans l'univers? Ou est-ce qu'au contraire, comme le pensent certains biologistes, c'est une succession de hasards tellement extraordinaire que c'est certainement que sur Terre que la vie soit apparue? Vous dites bien qu'on n'a pas encore de réponse à cette question, sinon on le saurait, mais que c'est évidemment l'une des interrogations les plus fondamentales sur le problème des origines. Bien qu'il s'agisse d'origines très récentes, puisque l'origine de la conscience que l'on pourrait associer à l'avènement de l'Homo sapiens ne remonte qu'à 8 millions d'années dans le passé, c'est-à-dire vraiment un véritable éclair par rapport à toute l'évolution cosmique de 15 milliards d'années que je vous ai raconté. Alors pour finir ce scénario, toujours l'interrogation qu'on peut cesser d'avoir lorsque l'on s'aperçoit que, tout au moins sur Terre, le cerveau, c'est le fruit d'une très longue évolution cosmique. Et donc cette interrogation, est-ce que c'est le fruit d'un pur hasard ou est-ce que c'est quelque chose qui doit se passer ailleurs dans l'univers? C'est une question à laquelle, évidemment, les scientifiques ne peuvent pas répondre de façon rationnelle. Alors, chacun a ses propres idées, ses propres théories, qui sont plutôt d'ordre de la croyance philosophique ou métaphysique. Certains essaient d'ailleurs, avec beaucoup de conviction, d'imposer leur point de vue en utilisant leurs argumentations et en faisant passer cette argumentation dans l'argumentation scientifique, mais il faut vraiment dire clairement les choses. Absolument personne ne sait quoi que ce soit sur cette question-là. Et seuls les poètes ont des choses à dire profondes là-dessus. Ils disent en fait la même chose que cette grande interrogation. Je finirai par 3-4-1 de Omar Khayyam. Omar Khayyam était un astronome et poète persan qui vivait au XIe siècle et qui, donc, en faisant de l'astronomie, était bien placé pour mesurer un petit peu, pour essayer d'évaluer la condition humaine dans cette grande histoire cosmique. Et voici ce qu'il dit du sentiment cosmique et de la position de l'homme dans l'univers. Le vaste monde, un grain de poussière dans l'espace. Toute la science des hommes, des mots. Les peuples, les bêtes et les fleurs de ces climats, des ombres. Le résultat de ta méditation, rien. Cette céleste roue à nos yeux suspendus est lanterne magique étonnant notre vue. Du milieu, le soleil éclaire à la lanterne et nous tournons autour d'images éperdues. De la ronde éternelle, arrivée et départ, le début et la fin échappent au regard. D'où venons-nous? Où allons-nous? Jamais personne n'a dit la vérité là-dessus, nulle part. Sauf si l'on rajoute des composantes de matière non visible, surtout le problème de ce qu'on appelle la matière sombre, on peut effectivement rajouter au contenu de matière, pas de façon arbitraire, parce qu'on a quelques raisons de penser qu'il y a beaucoup de matière sombre dans l'univers, et selon les types de matière sombre que l'on rajoute, qu'il s'agisse par exemple de toutes les petites étoiles, de très grands nombres de planètes ou de particules élémentaires formés au niveau de l'univers et difficiles à détecter, et bien les scénarios de formation des grandes structures peuvent marcher. Cela dit, ça reste quand même l'une des grandes énigmes, l'un des grands problèmes. Jusqu'à présent, il n'y a pas de scénario totalement consistant qui explique réellement le passage des fluctuations aussi infimes que celles du rayonnement de fond à ces structures astronomiques énormes qui sont les premières galaxies, les premiers amas de galaxies. Mais vous savez déjà cette question, parce que la cosmologie, c'est le domaine de la science parmi les plus médiatiques, les plus popularisés, dont on traite si mal la science en général, quand il y a des nouvelles qui annoncent soit la mort du blanc en général, la découverte d'un trou noir, et les en parlent, il y a toujours des exagérations considérables. Alors par exemple, justement à propos de ces problèmes de formation des galaxies, et puis dans l'autre problème auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est l'idée que l'univers pourrait être en fait une expansion accélérée. Vous avez certainement lu cette nouvelle. Alors, on reviendrait à dire que dans l'univers, dans les paramètres cosmologiques, il y a un paramètre qui s'appelle la constante cosmologique qui jouerait le rôle d'une répulsion à grande échelle qui ferait accélérer l'expansion de l'univers. Et on lit dans quasiment tous les articles qui paraissent idées révolutionnaires, constante cosmologique totalement oubliée depuis 1917, qu'Albert Einstein l'avait introduite en regrettant de l'avoir fait, aujourd'hui on redécouvre, puis c'est une vision totale, les cosmologistes se sont déboussolés, etc., etc. Tout ça, c'est complètement bidon. Il y a une quantité de personnes qui travaillent depuis des années sur la constante cosmologie, et le pionnier là-dedans, c'est Georges Lemaître, toujours le fameux Lemaître, l'inventeur du Big Bang, qui toute sa vie a essayé de convaincre Einstein qu'en introduisant la constante cosmologique, il n'avait certainement pas fait une bêtise, mais il a eu certainement l'idée la plus géniale de sa vie. Einstein ne voulait pas le croire, tellement qu'il regrettait de l'avoir introduit, parce que ça lui avait fait rater la découverte de l'expansion de l'univers. Et Georges Lemaître avait considéré que cette constante cosmologique était importante pour former les galaxies et pour rallonger l'âge de l'univers, déjà dans les années 1930. Et qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? C'est exactement ça. On a une constante cosmologique qui certes s'explique pour des raisons physiques différentes aujourd'hui de ce qu'avait imaginé Lemaître, mais qui, par sa seule existence, pourrait rallonger l'âge de l'univers et pourrait produire donc une phase allongée pour la formation des galaxies. Puisque quand on a une courbe d'expansion cosmique qui, au lieu d'être comme ça, qui est comme ça, c'est-à-dire avec une accélération, vous avez ici une zone d'inflexion dans laquelle on a une sorte de rallongement du temps. Et Lemaître avait déjà imaginé à cette époque que les galaxies avaient pu se former dans cette phase de précéder l'accélération de l'univers. Donc vous voyez que beaucoup d'idées présentées comme révolutionnaires aujourd'hui sont des idées qui ont été travaillées par de nombreux physiciens rapidement passées aux oubliettes de l'histoire.
Lors de votre exposé, vous avez évoqué la formation des étoiles par effondrement du gaz. Oui. Lorsque cela se produit, le gaz s'échauffe. Donc on doit voir sa température augmenter peu à peu, jusqu'à l'allumage de la fusion. Dans la phase pré-fusion, quelle est la température atteinte? Est-ce qu'on a une phase d'étoiles rouges, enfin ou un gaz rouge, qu'on devrait pouvoir observer? Est-ce qu'on observe ce phénomène?
Oui, alors il existe une température critique à partir de laquelle la fusion se déclenche. Cette température critique est de l'ordre de 12 millions de degrés. Alors avant, effectivement, les proto-étoiles sont chaudes et émettent l'essentiel de leur énergie par contraction gravitationnelle. Les étoiles, effectivement, se contractent peu à peu, et cette contraction produit un échauffement de l'étoile. Et cet échauffement produit beaucoup d'énergie. Et ces étoiles sont visibles à l'infrarouge.
Elles sont plutôt rouges. Elles doivent ressembler à des jantes rouges.
Non, à des naines.
À des naines plutôt.
Oui, parce que les jantes rouges, c'est au contraire un stade ultérieur de l'évolution.
Le gaz peut rentrer dans les dimensions, disons la bulle de gaz.
La bulle de gaz initiale, oui, mais les proto-étoiles, une fois formées, n'ont pas des dimensions gigantesques.
Une petite question technique. Vous avez dit un moment dans le champ de Hubble, qu'on voit des amas d'étoiles. Comment, techniquement, on voit que ce sont des étoiles et non pas galaxie nébuleuse.
C'est par essentiellement des analyses de couleur. Disons que, en fait, un amas d'étoiles n'a pas les mêmes couleurs qu'une galaxie. Donc c'est par ce type de raisonnement qu'on soupçonne que certaines structures que l'on voit ne sont pas des galaxies, mais plutôt des amas d'étoiles. Encore une fois, cette interprétation ne fait pas encore l'unanimité, ça demande encore à faire l'objet de nouvelles analyses.
On arrive à faire des spectres. On est arrivé à faire des spectres.
Alors, plus récemment, sur un autre champ que celui-là, on est parvenu à faire des spectres permettant donc de mesurer notamment l'éloignement de ces objets-là. Et parmi ces spectres-là, l'une des dernières analyses qui est parue il y a quelques semaines, une nouvelle assez étonnante, il semblerait qu'on ait découvert, grâce aux spectres, donc, des décalages vers le rouge beaucoup plus grands que tout ce qu'on avait soupçonné jusqu'à présent. C'est-à-dire qui traduirait le fait que des galaxies auraient pu se former, là il s'agissait de proto-galaxies, sur le spectre de proto-galaxies, placées à des décalages spectraux beaucoup plus grands que tous les records précédemment obtenus avec des quasars, etc., qui sembleraient donc des décalages spectraux allant jusqu'à la valeur de 10. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose, mais par rapport au record qui était de 4,5, c'est absolument considérable. Bon, replacer en échelle de temps, ça voudrait dire que en fait, les premières galaxies se seraient formées peut-être un milliard d'années plus tôt encore que ce que l'on croyait. Ce qui va augmenter la difficulté à expliquer le passage de ces fameuses fluctuations primordiales si infimes à ces premières galaxies. Donc l'énigme de la formation des galaxies est loin d'être résolue, mais il semblerait même que ça puisse se compliquer à l'heure actuelle. Ce qui est beaucoup plus excitant pour le scientifique, mais après, depuis des choses à compliquer, c'est plus amusant.
Dans la carte de Kobe, oui, on voit des taches rouges, c'est amusant, c'est un peu plus chaud d'un temps de
l'année. Oui, pur codage.
Il doit y avoir plus froid.
Oui, absolument. Oui, il y a un pur codage de couleurs, donc on code la température par les couleurs, on va dire que les zones les plus rouges, c'est une graduation de couleurs. Le point le plus bleu, ça va être le point le plus froid, le point le plus rouge, c'est le point le plus chaud. Mais l'écart entre les deux n'est que du 100 millième de.
Toujours sur Kobe, vous avez parlé d'un facteur 1000. C'est un facteur de température ou ça peut ressembler à un redshift ?
C'est la même chose. Alors, dans les lois de l'évolution cosmique, dans le modèle de Big Bang, en fait, la température diminue comme l'inverse du facteur d'échelle. Et puis vous m'avez parlé quoi de notre facteur ?
Il est redshift.
Oui, mais voilà, absolument. Voilà. Et c'est également linéaire avec le redshift. Proportionnel au redshift. Parce qu'en fait, le redshift est lié directement à l'augmentation du facteur d'échelle. Donc la température est inversement proportionnelle au facteur d'échelle, elle est aussi inversement proportionnelle au redshift. Et effectivement, le redshift de la zone qui a émis ce fameux fond diffus cosmologique, il est de l'ordre de 1000.
C'est 3000 degrés.
Oui.
Oui.
S'il vous plaît, il y a une question que vous vulgarisez dans un numéro scientifique américain. Est-ce que l'espace est fini ?
Ah oui,
c'est une autre histoire, mais est-ce que vous pouvez parler de l'évolution de la topologie de l'univers ? Parce qu'on dit que l'univers est courbé et qu'il irait, c'est une évolution que l'on signale, qu'il irait vers un univers plat. Et vous n'avez pas soulevé ce genre d'évolution ou ce genre de questionnement.
Vous voulez dire dans l'exposé d'aujourd'hui ?
Oui.
Oui, parce qu'effectivement, les travaux que je suis actuellement en train de développer avec mon laboratoire portent non pas sur ce que je vous ai grand pas dans la main que je vous ai raconté aujourd'hui, mais effectivement sur les problèmes de topologie de l'univers. Mais aujourd'hui, je vous ai choisi de ne pas en parler car en fait, c'est l'un de mes collaborateurs, Marc-Louis Chizeré, qui va vous en parler dans un mois. Un exposé sur la forme de l'espace. Donc, il parlera de la topologie de l'univers. Ça veut dire en deux mots, on peut quand même nous dire qu'effectivement, il y a des grandes interrogations cosmologiques. Il y a non seulement l'évolution dans le temps de l'espace, mais il y a aussi également l'interrogation sur la forme de l'espace lui-même. Est-il d'abord prouvé positivement, négativement, de façon nulle, dirait-il, cartésien, hyperbolique ou sphérique, c'est une question. La question encore plus intéressante, c'est est-il fini ou infini? Et ça, il a fallu attendre des développements récents de l'enjeu mathématique qui s'appelle la topologie pour commencer à comprendre qu'il y a des formes d'espace, appelées en termes un peu imagés, d'espace chiffonné, des formes d'espace extrêmement subtils qui peuvent parfaitement permettre d'imaginer un espace euclidien, voire un espace hyperbolique. À première vue, on a tendance à croire infini. Cet espace, au contraire, totalement replié sur eux-mêmes et parfaitement fermé et fini. Ces espaces-là, on peut parfaitement les utiliser pour décrire la structure de l'univers à grande échelle. Ce sera donc le sujet de la prochaine conférence. Étant entendu que cette forme possible de l'univers chiffonné aurait pris naissance lors des fluctuations quantiques, lors de la naissance spontanée de l'espace-temps à partir des fluctuations quantiques du vide, et à partir de là, n'aurait plus changé.
Vous avez évoqué la masse sombre, on parle également de masse manquante, si je comprends bien, manquante à l'intérieur même des galaxies pour expliquer leur dynamique. Est-ce que vous pourriez clarifier ces notions de masse manquante, masse sombre, à l'intérieur des galaxies, peut-être des deux trios qui sont épargnés et...
Oui. Bah, très brièvement, parce que c'est une longue histoire qui ferait un grand certain entière, on s'est aperçu qu'il y a dans l'univers et à différentes échelles de la matière invisible, de la matière sombre. Initialement, on l'a appelée matière manquante, masse manquante, parce que quand on a commencé par exemple à analyser la vitesse de rotation d'étoiles dans des galaxies spirales, et on trace ce qu'on appelle une courbe de rotation, c'est-à-dire on mesure les vitesses de rotation d'étoiles en fonction de la distance au centre. On peut tracer donc une courbe de rotation, donc la vitesse de rotation en fonction de la distance. Et on s'apercevait que les courbes observées ne correspondaient pas du tout à un modèle ordinaire de galaxie qui se serait réduite à la simple matière visible. Dans une galaxie, on voit, avec un télescope, une étoile, du gaz, etc. Voilà. Mais si on ne tient compte de ce que l'on voit, ça semble ne pas expliquer les courbes de rotation des galaxies. Il y avait donc quelque part une masse qui manquait pour expliquer que les courbes de rotation à grande distance étaient encore assez élevées au lieu de diminuer rapidement avec la distance. Alors après, donc, cette masse manquante s'est transformée en problème de matière sombre, c'est-à-dire pour remplir ce manque, on a imaginé des formes de matière qui pouvaient faire office, c'est donc qu'on appelait la matière sombre, parce que c'était forcément de la matière que l'on ne voyait pas. Alors c'est devenu aujourd'hui un des grands enjeux de la cosmologie. C'est d'abord estimer l'identité de matière sombre, premièrement, et deuxièmement, essayer de deviner la nature de cette matière sombre. Alors, quant à la première question, estimer les quantités de matière sombre, différentes observations, qu'il s'agisse de courbes de rotation des galaxies, mais également de l'analyse dynamique d'amas de galaxies, où on mesure cette fois-ci des vitesses de galaxies, les vitesses moyennes de galaxies dans un amas, on s'aperçoit que les galaxies bougent plus vite qu'elle bougerait si l'amas se réduisait au seul galaxie visible. Et également, en utilisant ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles, on a acquis à peu près la certitude qu'il y a au moins 10 fois plus de matière sombre dans l'univers que de matière visible. Et le deuxième point, quelle est la nature de cette matière sombre? Eh bien, il y a différents scénarios, pas du tout exclusifs les uns des autres d'ailleurs. Une hypothèse, c'est qu'il y a beaucoup de toutes petites étoiles, qui n'ont pas vraiment trop petites pour allumer l'énergie nucléaire, mais une sorte de grosse planète, si vous voulez, ou des étoiles ratées, qui parfois ont été de façon un peu malheureuse, qui peupleraient les halos de galaxies. C'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est la distance de particules élémentaires qui auraient de la masse, et notamment les neutrinos, ces fameux neutrinos dont on sait qu'ils sont extrêmement abondants dans l'univers. Les neutrinos, il y en a autant que des photons. Dans chaque centimètre cube d'espace, il y a 300 photons et 400 neutrinos en moyenne. Si les neutrinos ont une masse, ça change toute la dynamique de l'univers. Et donc, les neutrinos peuvent être candidats à cette fameuse matière sombre.
Je veux savoir un chiffre de ce que vous avez noté, qui a été pour la parole. Question, d'une part, est-ce que la distance entre les rayons augmente de manière linéaire à l'opéra de chiffre? Deuxième volet, est-ce que la largeur d'une raie individuellement augmente aussi une intensité constante.
J'ai des codes que vous voyez trop là. Qu'est-ce que vous appelez la distance entre les raies?
Bon, l'écart entre deux raies typiques. Est-ce que ça s'égale? Mais est-ce que ça s'égale en homme? Est-ce que la distance, enfin, l'écart entre ces deux raies augmente également? Est-ce que c'est linéaire? Est-ce qu'il y a une pure translation?
Est-ce qu'il y a une pure translation, respect de l'écart en bloc. C'est ce qui permet notamment de reconnaître justement qu'il s'agit bien
d'une augmentation de l'écart.
Non. Alors, notamment, on reconnaît par exemple des doublés de raies caractéristiques, mais en calcium, et en procédure.
Donc, la largeur des raies, des épaisseurs d'une rende elle-même, ça sont des laisseurs, ne varie pas non plus.
Enfin, en tout cas, pas par des effets. Ça relève qu'il y a un état d'effet magnétique qui peut se faire poser quand on fait ça, mais.
Une petite question technique. Je crois savoir qu'on a découvert l'hélium dans le Soleil avant de le découvrir sur Terre.
Tout à fait.
Néanmoins, sur Terre, il y a encore de l'hélium dans l'air, 15 ppm, et de l'hélium dans certains gaz naturels.
Oui.
D'où viennent-ils?
Alors, en fait, votre question, c'est est-ce qu'il s'agit encore de l'hélium primordial qui ne s'est pas encore complètement évaporé?
Voilà. Dans l'air,
je n'en sais strictement rien. Je pense que oui, parce que l'hélium étant un gaz inerte, il n'est pas produit par les combinaisons chimiques. Donc s'il y a de l'hélium sur Terre, il ne peut que dater de la formation au moins du système solaire. Et dans le Soleil, il y en a de l'hélium. Il y en a à peu près un quart en masse.
C'est la radioactivité alpha qui produit l'hélium.
Comment?
La radioactivité alpha qui produit l'hélium.
J'avais oublié ce point. Je n'ai pas négligé. Bon. Vous avez le meilleur. Oui.
Lorsqu'on voit les images données par Kobe, on voit toujours de superbes ellipses avec des bords très nets.
Oui.
Mais c'est pas ce que ça représente.
Et parce qu'on fait une carte, on essaie de représenter à deux dimensions quelque chose qui a la forme d'une sphère. Quand on fait une carte de la Terre, on fait une map monde. Alors, souvent, on met dans un carré, mais vous avez vu certainement des cartes de la Terre qui sont aussi incorporées dans des ellipses. Donc on fait simplement une petite opération de projection de coordonnées qui permet de passer les coordonnées de la surface d'une sphère dans un plan. Pour le ciel, c'est la même chose, sauf que c'est concave. On regarde la sphère de l'intérieur, non pas de l'extérieur. Et donc c'est la même chose. On fait une projection de toutes les directions du ciel, dans son option mathématique, qui ramène tous ces points-là dans, à l'intérieur d'une ellipse. C'est une projection particulière. Une projection de la mer étoffe, un peu importe. Et donc on a une map au monde céleste.
Vous avez
mis du
champ, en fait?
Non, les bords de l'ellipse, c'est le bord de la représentation, mais bien tout le ciel est là. C'est la totalité de la voûte sphérique et ramenée à l'intérieur de cette ellipse. Hein? De même, le map au monde terrestre, qui est enfermé dans les limites de la carte contient toute la surface de la Terre. D'accord ?
Excusez-moi. Quand on superpose les images de comète, les images de l'univers connu, la carte du ciel,
repérer quel germe de Kobe, enfin quel supernova de galaxie correspond à tel germe. Non, c'est absolument pas ça. Non. Dernière question.
J'ai une question au sujet de l'expansion sur l'univers, enfin de l'univers. L'expansion, enfin éloigne les objets. D'autant plus qu'ils sont éloignés, de plus en plus vite. Et on considère que ce serait un mouvement qui n'en serait pas ferme.
Oui, au début j'ai expliqué que on interprète cela comme une dilatation en fait, de l'espace lui-même. Il se trouve, cette dilatation de l'espace lui-même, ce que vous allez me dire, c'est juste un jeu de mots, on change un mot, une expression. Sauf que cette dilatation de l'espace, variation d'une sorte d'échelle de l'espace au cours du temps, est prédite et prévue et calculée par une théorie fondamentale de l'espace, du temps et de la gravitation, qui est la théorie de la relativité générale. Voilà. Alors, donc, dans le cadre de cette théorie, on trouve que si effectivement l'espace se dilate, cette dilatation est d'autant plus grande que les points que l'on considère sont éloignés. Donc à petite échelle, la dilatation de l'espace est faible, et même à petite échelle, la dilatation de l'espace est totalement noyée par des mouvements gravitationnels locaux. Par exemple, les galaxies les plus proches de nous, elles ne s'éloignent pas, elles se rapprochent. Par exemple, la galaxie d'Andromède et les galaxies appartenant au groupe local des galaxies n'ont pas des mouvements d'éloignement systématique, parce qu'à cette échelle-là, les distances ne sont pas assez grandes pour que cet effet, cette dilatation du tissu soit sensible, et cet effet est dominé par la gravitation locale qui a tendance au contraire à regrouper les corps. Et ce n'est qu'à partir donc, d'une certaine distance assez considérable, 50 millions de lumière, quelque chose comme ça, que vraiment cette dilatation de générale de l'espace prend le pas sur tout autre effet local. Et à partir de là, plus on va loin, plus effectivement cette dilatation est importante. Et c'est la raison pour laquelle on mesure en fait cette vitesse de dilatation dans une unité qui s'appelle le kilomètre par seconde, qui est bien une vitesse, mais par unité de distance, qu'on appelle le mégaparsec, parce que c'est une grande distance qui est de l'ordre de 3 millions d'années-lumière.
Mais ma question, c'est est-ce que empêche nos objets suffisamment éloignés de s'éloigner plus rapidement que la vitesse de la lumière ?
Rien du tout.
Rien du tout.
Mais en fait, et alors il dit. Ça définit précisément en cosmologie ce qu'on appelle un horizon. C'est-à-dire l'horizon, en cosmologie, c'est précisément une frontière purement géométrique, hein, qui n'est pas de l'observateur, de même que l'horizon du navigateur, si vous voulez, qui est la frontière de l'espace à partir de laquelle les vitesses apparentes de fuite des galaxies sont plus grandes que la vitesse de la lumière. Donc il est certain qu'on ne peut pas voir le rayonnement des objets situés au-delà. Donc c'est un véritable horizon. Mais cet horizon grandit avec l'évolution de l'univers, bien entendu. Cet horizon s'élargit.